BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h01, on est reparti ici à la REF à Longchamp pour cette université d'été du MEDEF dans un contexte absolument incroyable. Pas de gouvernement, enfin en tout cas un gouvernement démissionnaire, un programme du nouveau Front Populaire sur lequel a tapé durement Patrick Martin aujourd'hui. Le MEDEF qui veut peser dans le débat actuel, on va voir ça dans un instant avec Thomas Asportas, c'est le journal dans un instant. Et puis nos experts seront là à partir de 19h15. Paola Fabiani, vice-présidente du MEDEF, sera là également pour relayer le message de Patrick Martin. On est ensemble à la REF jusqu'à 20h. Très bonne soirée sur BFM Business.
Good Evening Business, le journal.
Donc ce discours de Patrick Martin qui a ouvert cette REF édition 2024. Rebonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Ça a duré 40 minutes ce discours. Ouais. Alors il y a eu de tout, il y a eu du positif, parce qu'il faut être positif en toutes circonstances. Et quand même, il y a eu quelques messages bien sentis de la part du patron du MEDEF aujourd'hui.
Ouais, hein, ouais, ça c'est bien résumé. Du positif, effectivement, parce que la France peut faire de grandes choses comme les Jeux Olympiques. Et puis, une mise en garde, parce que la France peut tomber de haut si elle fait les mauvais choix politiques dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Notamment si elle revient sur sa politique de l'offre. Cela se paiera cash, a dit tout à l'heure Patrick Martin. On l'écoute.
Remise en cause de la réforme des retraites. Alourdissement de la fiscalité. À ces deux erreurs s'en ajouterait une troisième. Répondre au sujet réel du pouvoir d'achat des salariés modestes par une revalorisation massive du SMIC à la charge de nos entreprises. Érosion des rentabilités, destruction d'emplois, nouvel écrasement des grilles salariales, perte de compétitivité, de A à Z, les effets en seraient ravageurs.
Regarde là. Voilà, Patrick Martin, Thomas.
Ouais, Patrick Martin qui remonte au créneau, on l'a entendu, contre le programme du nouveau Front Populaire. Les entrepreneurs sont inquiets, les temps sont durs, dit le président du MEDEF. Et il a présenté sa réponse, son plan d'action face aux menaces politiques avec trois propositions, un plan en trois points. Le premier, c'est de démonter pied à pied toutes les propositions politiques déconnectées des réalités économiques. Patrick Martin veut mettre en place, je le cite, un front économique face évidemment au nouveau Front Populaire, avec des chefs d'entreprise, avec des économistes, avec des think tanks. On l'a compris, ce sera front contre front. C'est un petit peu le retour du MEDEF de combat de Pierre Gattaz il y a 10 ans. Le deuxième point, c'est de professionnaliser le MEDEF pour renforcer son lobbying, son influence, et notamment auprès des parlementaires et des sénateurs. On l'a vu, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, et Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui ont fait suite au discours d'ouverture de Patrick Martin. Et enfin, le dernier point, et c'est peut-être le plus important, c'est de profiter du vide politique pour imposer le patronat dans le débat d'idées, dans le débat public, pour mettre en avant leurs propositions. Bref, pour prendre le pouvoir, en quelque sorte. Le pouvoir, c'est le thème, précisément, de cette REF 2024.
Un MEDEF qui veut peser dans le débat actuel. Merci beaucoup, Thomas. Ben oui. Thomas Asportas, avec nous depuis ce matin, quasiment, pour décrypter les enjeux de cette REF 2024. Merci beaucoup, Thomas. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, lui, continue de consulter. Avant de nommer un Premier ministre, on ne sait pas quand, il a reçu Marine Le Pen et Jordan Bardella ce matin. Au sortir de leur réunion, ils ont réaffirmé leur intention de censurer un probable gouvernement du nouveau Front Populaire. Écoutez Marine Le Pen tout à l'heure en sortant de l'Elysée.
J'ai exprimé auprès du président de la République une inquiétude. Nous avons exprimé une inquiétude qui est celle de la nomination d'un Premier ministre alors même que l'Assemblée nationale n'est pas au travail. Et donc nous avons sollicité qu'une session extraordinaire soit ouverte pour qu'un Premier ministre, quel qu'il soit, puisse arriver en situation devant une Assemblée nationale qui a un rôle, chacun le comprend, beaucoup plus important aujourd'hui peut-être qu'elle ne l'a jamais été.
Voilà, Marine Le Pen reçue donc à la mi-journée à l'Elysée par Emmanuel Macron. Et puis on apprend que la rentrée sociale va être chargée, ce qui n'est pas vraiment une surprise puisque la CGT a dit aujourd'hui qu'elle envisageait une feuille mobilisation, je cite, fin septembre, début octobre. C'est ce qu'a déclaré Sophie Binet, sa secrétaire générale aujourd'hui. Elle évoque l'abrogation de la réforme des retraites ou encore la préparation du budget pour 2025. Puis ça va vite se corser apparemment dans l'éducation nationale puisque trois syndicats enseignants appellent à la grève dès le 10 septembre, cette fois pour dénoncer, je cite, la généralisation des évaluations dans les classes qui vont du CP Au CM2, 19h06 sur BFM Business, dans l'actualité des entreprises, ça bouge encore chez Auchan. Guillaume Darras, qui est arrivé en avril à la tête du groupe en France, continue de prendre du galon d'après nos confrères de La Lettre. Il s'attrête à récupérer la direction générale du groupe au niveau mondial. Le PDG Yves Claude doit en effet annoncer cette semaine qu'il renonce à cette fonction pour ne garder que celle de président. Pauline Tadevin nous explique tout ça.
Petit à petit, Guillaume Darras grimpe dans la galaxie Auchan. Il est venu pour redresser l'entreprise. C'est logique si on lui laisse carte blanche, explique un bon connaisseur du groupe. D'autant que l'actuel PDG Yves Claude, qui a passé 40 ans chez Decathlon, n'y connaît rien dans l'alimentaire, nous dit un autre. Le chiffre d'affaires d'Auchan a baissé de près de 5% au premier semestre en France, qui représente la moitié de ses ventes. Fin connaisseur du secteur, passé notamment par Système U et Invivo, Guillaume Darras s'impose comme l'homme de la situation. Depuis son arrivée, il gère le rachat des magasins Casino, la mise en place d'une centrale d'achat commune avec Intermarché et Casino, et il orchestre un vaste plan de transformation qui passe notamment par la réduction de la taille des grandes surfaces et par un travail sur les prix, par une réorganisation en interne aussi, avec pour mission de faire repartir le cinquième distributeur français dans un marché de plus en plus concentré.
Pauline Tadevin, et je vous précise que contactée par BFM Business, la direction d'Auchan n'a pas souhaité commenter cette information. Deux mots encore avant d'aller sur les marchés. D'abord, une amende de quasiment 300 millions d'euros pour Uber aux Pays-Bas. C'est là que se situe le siège social européen de la plateforme. Amende pourquoi ? Des transferts de données personnelles des chauffeurs européens vers le siège américain. Des données que la plateforme n'aurait par ailleurs pas suffisamment protégées. Voilà ce qu'a suscité cette amende annoncée aujourd'hui. Et puis le patron de Telegram, lui, est toujours en garde à vue en France. Pavel Durov, c'est son nom, vous savez, a été arrêté samedi à son arrivée au Bourget. Il était sous le coup d'un mandat de recherche. La justice lui reproche de ne pas agir contre des utilisations controversées de sa messagerie, avec notamment une absence de modération et de collaboration avec les enquêteurs. Pavel Durov n'a rien à cacher, c'est ce qu'a déclaré Telegram hier dimanche, 19h09 sur BFM Business. On retourne sur les marchés.
Good evening business, les marchés.
Les marchés, rebonsoir Antoine. Antoine Larigonnet qui est avec nous depuis notre studio à Paris. Bonsoir Antoine, comment ça s'est passé cette journée sur les marchés?
Très calme, mais on termine en hausse, plus 0,18% pour un CAC 40 qui a effleuré les 7600 points. On les a même dépassés en séance, 7590. Alors à noter quand même, fait marquant, une contre-performance des valeurs de la tech, avec notamment l'Euronext Tech Leaders qui a reculé de 0,6%. Et ça, on le voit en ce moment du côté des marchés américains. C'est très très clair, plus 0,26% pour le Dow Jones, qui est d'ailleurs sur un plus haut historique, il faut souligner, alors que le Nasdaq, lui, recule de 0,75%. Alors, cette baisse des valeurs techno, on peut la constater du côté de Paris avec ST Micro, qui a bien pesé en perdant 0,73% à 27,91 €. Il y a quand même un événement majeur à attendre du côté des semi-conducteurs cette semaine, mercredi, avec les résultats d'NVIDIA. Donc, il y a peut-être un petit peu de prudence, d'allègement autour de ça. Edenred recule de 0,55% à 38,08 €. À noter Société Générale, moins 0,54% à 21,36 €. Mais à la hausse, Unibail Rodamco Westfield a signé la plus forte hausse du jour à plus 1,2% à 72,70 €. Et puis, l'autre facteur de marché, il est lié directement à la hausse de Total, qui a gagné 1,13% à 62,86 €. C'est la forte hausse des cours du brut, le Brent de Mer du Nord, qui est sur des plus hautes deux semaines, au-delà des 80 $, avec des problèmes d'approvisionnement et d'exportation du côté de la Libye, 80,05 $. Les deux autres chiffres à retenir, et ils sont liés, l'euro-dollar qui est au plus haut depuis un petit peu plus d'un an, 1,1174 face à une devise américaine qui baisse, avec la perspective des baisses de taux prochaines de la Fed. Et l'or qui effleure un nouveau record historique, on s'est arrêté juste en dessous. On est à 2556 $ l'once. Le CAC donc plus 0,18, 7590 points, Guillaume.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Larigauderie avec nous désormais tous les soirs sur BFM Business. Il est 19h11, on marque une petite pause puis on revient ici dans un instant. Vous restez avec nous dans une grosse minute sur BFM Business. On est ensemble ici à la REF depuis 18h et jusqu'à 20h. On sera avec Paola Fabiani, la vice-présidente du MEDEF, pour reprendre les éléments de langage du discours de Patrick Martin que vous avez pu suivre cet après-midi en direct sur BFM Business à 14h. Puis nos experts arrivent dans la foulée, bien sûr. Marc Landré sera là, Léonidas Kalogiropoulos et bien sûr Jackie Isabello. Il sera avec nous tous les trois jusqu'à 20h pour décrypter l'actu. Très centré sur ce qui s'est dit aujourd'hui au MEDEF, évidemment, et le contexte politique qui va avec. Tout ça jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h14, on est de retour ici à Longchamp pour débriefer cette première journée de la REF, le rendez-vous des patrons édition 2024 dans un contexte politique absolument inédit. Pas de gouvernement, enfin si, un gouvernement démissionnaire qui est venu, Bruno Le Maire était là évidemment, bien sûr, mais sinon quasiment pas de politique. Vous avez pu suivre les interventions notamment de Yael Braun-Pivet et de Gérard Larcher, président respectivement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et puis, le premier temps fort évidemment de cette journée, ça a été le discours à 14h de Patrick Martin, le président du MEDEF. Et on va en parler avec Paola Fabiani qui est avec nous en plateau. Bonsoir Paola Fabiani.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente du MEDEF, vous êtes aussi chef d'entreprise PDG de Wisecom, on est dans les centres d'appel, voilà.
Tout à fait.
On vous demandera aussi, évidemment, vous n'y couperez pas comment en tant que chef d'entreprise, vous regardez la configuration actuelle. Il n'a pas mâché ses mots, hein, disons-le clairement. Aujourd'hui, Patrick Martin a l'intention du programme du nouveau Front Populaire. Autant il avait pris quelques pincettes par le passé, autant là, on sentait qu'il avait à cœur de dire les choses clairement aujourd'hui. Paola, c'était...
Oui, tout à fait, oui, c'est, je pense que c'était à l'égard du Front Populaire, mais pas que, c'était surtout par rapport à un retour des chefs d'entreprise, par rapport à la fois à des signes positifs, parce qu'il y a des signes positifs, que ce soit la baisse du taux de chômage ou finalement l'augmentation de la croissance, hein, puisqu'on a 0,3% au second trimestre et on pense qu'on va dépasser la barre des 1%, donc il y a des signes positifs, mais il y a aussi des signes inquiétants de fragilité, comme notamment les défaillance d'entreprise. On n'a jamais atteint ce taux de défaillance d'entreprise.
Qui repart très fort, évidemment.
Donc, effectivement, comme la baisse de l'investissement et puis les risques sur la trésorerie. Donc, et puis, globalement, la dette publique. Hein, cette dette qui, rappelons-nous, est détenue à plus de 50% par des investisseurs internationaux.
54%, absolument.
Donc, effectivement, en fonction du climat politique, en fonction de l'ambiance, en fonction du message qu'on envoie et des messages, les investisseurs sont là ou pas là. Donc, voilà. Oui. Donc, il y avait ces signes-là, plus un certain nombre d'annonces, effectivement.
Ouais. Et l'annonce forte, c'était la constitution donc de ce qu'il a appelé le front économique.
Tout à fait.
Le front économique contre le nouveau Front Populaire. Alors voilà, certains ont vu un clin d'œil. Là, on est dans la confrontation. On sent que le MEDEF, là, s'il est resté sur la réserve, a envie de monter au front, précisément. C'est de ça qu'il s'agit, voilà. On va entendre le MEDEF dans les prochaines semaines, de plus en plus, sur toutes ces questions.
Le MEDEF a pour ambition, de toute façon, de porter la parole des entreprises et des entrepreneurs qu'il représente. Hein. Ouais. Rappelons-le, c'est 200 000 adhérents, c'est la première organisation patronale. Donc, son premier rôle, c'est avant tout de porter ça. Puis, finalement, Patrick, à travers ses messages, a trois messages forts. Le premier, c'est de rappeler que le dialogue social et les partenaires sociaux, ça fonctionne quand on leur laisse la possibilité d'agir. On l'a vu à travers un certain nombre d'accords, l'accord sur le partage de la valeur et d'autres.
Qu'il a rappelé, bien
donc,
sûr.
Donc, il a rappelé. Donc, je pense qu'on est dans un flou politique assez important. Bien là, il faut qu'on fasse appel. Et c'est aussi le thème de la REF. Hein. Le thème de la REF, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir s'est déplacé. On le voit, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. On a reçu en introduction la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat. Oui. C'était aussi ce message. Donc, finalement, le dialogue social, il est présent, il est actif, il est là. Et c'est une voie pour permettre de faire avancer les choses. Le deuxième point qu'il a rappelé, c'est n'oublions pas de consulter et en amont et en aval les acteurs de l'économie pour toute décision économique. Sûrement, vous allez revenir sur ce point-là.
Oui.
Et puis enfin, le troisième point qui semble essentiel, c'est la force du laboratoire d'idées, le jeu de l'influence du MEDEF. Le MEDEF a pour but l'influence pour porter encore une fois la parole des entreprises.
Et c'est la REF, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Est-ce qu'on va voir le MEDEF faire davantage de lobbying?
Alors,
investir encore plus les plateaux de télé, de radio pour faire encore plus. Il a dit, il faut ramener le primat de l'économie.
Voilà,
dans le débat. Ça veut dire quoi, ça, concrètement?
Alors, ramener le primat de l'économie, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment consulter les acteurs économiques en priorité sur toute décision qui impacte l'économie. Ah, c'est ça. Donc, finalement, c'est qu'on soit consulté en amont, qu'on soit présent, qu'on soit aussi force de proposition, ce qu'on est déjà, mais qu'on le soit encore plus. Et d'où la création de ce front économique qui a pour but avant tout, en fait, de rassembler toutes les parties prenantes qui veulent et qui peuvent et qui ont un retour d'expérience, donc think tank, entreprise et tout l'écosystème finalement économique pour porter la voix du terrain.
Ouais,
et que la voix du MEDEF.
Donc vous nous dites, il faut croire encore au paritarisme, encore et toujours en 2024. Ce paritarisme qui a été tellement foulé aux pieds ces dernières années, il faut dire les choses clairement quand même.
Alors oui et non. Et puis, je dirais que c'est plus que croire. C'est le parisme fait partie des solutions aux problèmes. Et donc c'est une voie de dialogue, c'est une voie de construction. C'est finalement le terrain du compromis et des accords qui fonctionne. Et finalement, bah, c'est le retour en fait de la pratique. Donc le paritarisme, c'est ni plus ni moins les organisations patronales et salariales qui échangent entre elles pour construire des solutions du terrain. C'est ça dont on parle. Et je pense qu'on a beaucoup besoin de pragmatisme et de rationalité.
Alors, puisqu'on parle de pragmatisme, de rationalité, qu'est-ce que la chef d'entreprise Paola Fabiani sans aujourd'hui décide pour son entreprise? Est-ce qu'elle continue à investir? Est-ce qu'elle continue à embaucher? Ou alors est-ce que tout est mis sur pause temporairement? Comment ça se passe pour vous personnellement?
Alors, on voit bien que dans le climat général, il y a un frein sur les investissements. Nous, on essaye de les maintenir, mais effectivement, on est dans un métier, bah, typiquement, je pense qu'on est un bon exemple, le centre d'appel, on est typiquement très enclin, enfin, notre première source de revenus, merci beaucoup.
Pardon, oui. Vous voyez que ça s'agit toujours de nous. L'activité, elle est présente autour de nous, en tout cas. Ça fonctionne, hein, tout va bien. Oui, oui, allez-y, parle.
Ce sont les salaires. Donc, effectivement, on a des craintes.
Ouais.
Patrick l'a cité dans son discours, et je pense qu'on a un bon exemple. L'augmentation du SMIG.
Oui.
Bah, effectivement, nous, on sait, on est en compétition avec les centres d'appel délocalisés.
Oui,
je ne vais pas représenter ce que c'est. Nous, on est un centre d'appel qui est basé en France, localisé notamment à Paris et partout sur la France et en Corse. Et en fait, notre enjeu, il est de maintenir nos clients qui ont cru en nous, qui ont cru dans le pari finalement du Made in France. Et donc, toute augmentation, effectivement, du SMIG, ça remet en question notre rentabilité. Donc, ça veut dire quoi, concrètement? Érosion de la rentabilité, perte de commandes, destruction d'emplois et donc perte de pouvoir d'achat.
Ce dont il a parlé aujourd'hui, c'est le risque d'un SMIC à 1 600 €, mais uniquement à la charge des entreprises. Est-ce que vous y avez vu? On y a vu une petite ouverture.
Tout à fait, il y a une vraie ouverture.
Il y a une ouverture, voilà. Qui est la contrepartie, c'est, remettons sur le tapis le débat du financement de la protection sociale en France.
Et puis du coût du travail.
Et les transferts sociaux, voilà.
Et du coût du travail.
Du travail versus coût du capital.
C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Il y a une première possibilité, effectivement, qui est, remettons le débat du coût du travail. Comment finalement faire en sorte que ce soit du 1 pour 1, par exemple, ou autre?
Ça, par contre, je le dis parce que c'est une petite assertion qui n'est pas passée inaperçue aujourd'hui, voilà, dans le discours.
C'est important.
Vous avez raison,
c'est essentiel.
Alors, on rouvre ces chapitres, véritablement, ça que ça veut dire?
En tout cas, s'il y a débat sur ça, ce serait bien de ouvrir ce chapitre. Puis il y a un autre chapitre que Patrick Martin a souligné là-dessus, c'est aussi comment faire en sorte que l'investissement en milliards qui part notamment aux États-Unis soit mis en Europe, voire en France. L'attractivité, la compétitivité.
Oui.
Les deux sujets sont très liés en fait.
Oui.
Voilà.
Ça vous a fait plaisir, on posait la question depuis tout à l'heure à nos invités d'entendre aujourd'hui Patrick Martin, ce matin dans la presse, tout à l'heure à la tribune, parler de compétitivité, d'innovation, d'emploi, de formation. Parce qu'on le disait, ce sont mine de rien des mots qu'on n'avait pas entendus depuis un certain temps, même du temps de l'élection, de la campagne des législatives, on n'avait pas entendu parler de tout ça finalement.
Tout à fait, on peut déplorer que lors de la campagne, et le 20 juin, je rappelle, le MEDEF, avec l'ensemble des organisations patronales, a réuni l'ensemble des chefs de file pour présenter leur programme et les challenger, je dirais, sur leur programme.
Mais c'est
vrai qu'on peut déplorer que le sujet de la compétitivité, la productivité n'a pas été assez abordé et la rationalité, je dirais, n'a pas été assez abordée dans ces campagnes. Et on espère qu'il va être beaucoup plus abordé. En tout cas, on se fera fort de porter cette voix.
Le temps politique, hélas, ne s'y prête pas toujours. Voilà, on est sur des débats de long terme, évidemment. Donc, on n'est pas forcément dans le cœur du sujet. Merci beaucoup, Paola Fabiani. En tout cas, merci infiniment d'être passée nous voir quelques minutes ce soir. La vice-présidente du MEDEF avec nous sur BFM Business. Merci infiniment. Je vous libère, évidemment, pour le reste de la soirée. Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Et on va accueillir. Merci, on va accueillir. Bah, ils sont là. Ils vont arriver au petit trot. Voilà. Bien gentiment, nos éditorialistes. Alors, le vent m'a trahi, la feuille sur laquelle vos noms étaient inscrits s'est échappée, mais je vais y arriver, malgré tout. Marc Landré, Associatia Partners, l'ai-je bien descendu? Jusqu'à présent, tout
c'est
va
parfait,
bien.
Parfait, bonsoir.
Jackie Isabello est arrivé. Cher Jackie, bonsoir. Merci pour ma feuille, oui, évidemment. On se bat contre le vent pour rien vous cacher depuis tout à l'heure. Bonsoir Marc, bonsoir Jackie, fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact.
Bonsoir Guillaume.
Et Olenidas Kalogiropoulos qui nous rejoint également. Le vent tous les ans nous trahit, ça se passe comme ça. PDG de Médiation et Arguments, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Bonsoir cher Olenidas, merci messieurs d'être là pour nous accompagner jusqu'à 20h pour évoquer tout ce qui a été évoqué, beaucoup de choses depuis tout à l'heure, 14h. On a 7 minutes d'ici la pause avant de se lancer dans l'analyse du discours de Patrick Martin. Je voulais parler un petit peu de politique. Parce que j'ai envie de vous poser la question que je vous posais déjà il y a une semaine, il y a deux semaines, il y a trois semaines, il y a un mois et demi. Comment est-ce qu'on sort de cette impasse? Je ne sais pas, Emmanuel Macron est censé parler ou pas à l'heure où on parle ce soir à 20h,
toujours pas, à l'évidence.
Il va parler ou pas?
Il parle.
Non, prévu, je sais pas.
Oui. Il devrait parler à 20h, mais à 20h. Il a déjà annoncé qu'il allait relancer une deuxième étape de concertation. Et le NFP a dit qu'il ne se rendrait pas à cette deuxième étape de discussion si sa candidate, Mme Castex, n'était pas au préalable désignée, nommée Première ministre. Donc les choses se tendent entre ceux qui pourraient diriger le gouvernement. Et celui qui sera chargé d'adouber la chef ou le chef du gouvernement.
Qui de raisonnable intellectuellement pouvait croire ou croyait que Lucie Castel allait être nommée Première ministre par Emmanuel Macron? On n'a pas besoin d'un deuxième round de discussion pour savoir qu'elle ne sera pas Première ministre.
À partir du moment où vous partez du principe qu'elle va être sanctionnée dans les 48 à 72 heures qui suivent par le Parlement, je ne vois pas tellement où est le sujet. Elle est
mise en danger.
Au moins, vous levez l'hypothèque et puis terminez. Basta, on passe à autre chose.
Sauf être totalement machiavélique et faire en sorte qu'il y ait effectivement une crise politique qui conduise à un premier échec gouvernemental pour permettre. C'est la thèse d'Alain Duhamel. Pour permettre l'instauration d'un gouvernement technique après que le premier gouvernement politique ait échoué.
Eh ben alors pourquoi est-ce qu'il agit pas comme ça, Emmanuel Macron ? Voilà, tout simplement.
Il y a l'option est possible. Enfin, objectivement, le fait de ne plus être celui qui empêche cette option, mais de la nommer pour que cette option soit remise en cause au bout de 48 heures devant le Parlement.
Vous levez l'hypothèque et puis après.
Vous levez l'hypothèque. Oui. C'est effectivement une hypothèse.
Mais parce qu'Emmanuel Macron fait une politique que personne ne comprend. Là concrètement, il a bien noté, il est très intelligent et tout le monde s'accorde sur le fait que c'est un film de Terence Hill et Bud Spencer, c'est-à-dire que c'est personne qui est pour l'instant nommé. Et son boulot, c'était de surtout pas apparaître comme étant la pierre angulaire de tous les échanges. De demander aux partis de faire des réunions au Parlement, puisqu'on n'arrête pas de dire, et ça a été dit par Mme Braun-Pivet, par M. Larcher, que le pouvoir parlementaire se réappropriait sa place pleine et entière. Mmh. Et donc le président devait faire en sorte de ne pas être au centre des discussions pour pouvoir transiger. Il a fait tout l'inverse. Oui. C'est qu'il a dit, on va se voir en bilatéral.
On s'en fait pas,
qui est un spécialiste du social, il sait très bien que quand on fait du bilatéral, c'est surtout pour être au centre de cette quadrature du cercle. Donc, aujourd'hui, en étant au centre, c'est complètement insoluble. Donc, celui ou celle qui sera désigné, c'est qu'il sera sans doute dans le dictionnaire le Premier ministre qui aura été à Matignon encore bien moins longtemps qu'Edith Cresson. C'est quand même pas très glorieux.
Marc,
je fais beaucoup de mauvais procès au président de la République, mais pas celui trop si machiavélique que cela, de nommer un Premier ministre pour qu'il se fasse dégommer dès la première occasion à l'Assemblée nationale. En revanche, ce que je pense, c'est que Emmanuel Macron sait que c'est un fusil à un coup qu'il a. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est nommé la Première ministre, il n'a plus de carte en sa possession. Il ne pourra pas démettre le Premier ministre, sauf crise politique, censure à l'Assemblée nationale. Un Premier ministre, dans la Constitution, si ça veut rester, ça reste.
Oui.
Le président demande la démission du Premier ministre. Et si le Premier ministre la refuse de démissionner, qu'est-ce qui se passe ?
Ah bah s'il y a mention de censure, non, le Premier ministre est obligé de partir.
Hors mention de censure.
Mais c'est ce qui va se passer.
C'est ce qui va se passer. Ah. On verra. Alors, Léonidas, Guyenne.
Il ne faut pas l'espérer, franchement.
Moi, je suis absolument persuadé.
On fait encore 3 minutes de politique, hein, pas prendre par les couilles, je vous promets.
Ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est quelque part le message des forces vives du pays. Je ne peux pas imaginer un seul instant que l'on puisse prendre le risque non seulement d'une crise économique, d'une crise boursière, d'une crise de la dette, d'une crise de défiance internationale, simplement pour des jeux politiciens absolument absurdes. Je reste persuadé qu'il y a une logique, une rationalité et une espèce d'épicentre dans notre pays. L'épicentre,
dans le
discours, il n'est pas...
Dans la stratégie d'Emmanuel Macron, vous voulez dire ?
Dans nos institutions en général.
Non.
Et ce qu'a dit la présidente de l'Assemblée nationale et ce qu'a dit le président du Sénat rejoint globalement ce que tous les partis modérés et ce que Emmanuel Macron essaie de faire, qui est de retrouver un axe central. Notre pays, je ne pense pas, soit capable de rentrer dans une crise politique de cette ampleur.
Les klaxons que vous entendez, ce sont les taxis qui bossent. Hein, donc il y a l'activité du côté de Longchamp, je peux en témoigner. Bon,
moi avez... je ne suis pas tout à fait d'accord avec Leonidas Kalogeropoulos. Ce ne sont pas des jeux qui sont des jeux anodins. C'est l'expression d'un peuple à qui on a posé une question au mauvais moment. Et le résultat de ce qu'ils ont dit, eh bien, pose un problème structurel pour des institutions qui n'ont pas été armées pour gérer cela. Aujourd'hui, très honnêtement, personne n'est capable de se mettre d'accord sur un nom. Et on est arrivé au bout d'une situation qui est d'une complexité. Ça n'est pas une petite question que de se dire nous sommes dans une impasse. C'est le résultat d'un exercice procédé au mauvais moment, et donc désormais le président de la République doit se poser la question de son rôle à lui par rapport à une situation qui est placée dans une ornière.
Alors,
c'est
là aussi,
immanquablement ce que les gens vont en déduire.
J'allais vous demander quel était le nom qui pouvait résister, mais on l'a pas forcément, mais je réagis sur ce que vous disiez. Est-ce que la tentative de Jean-Luc Mélenchon dimanche dernier dans la presse d'évoquer la possible destitution du chef de l'État, est-ce que c'est pas un moyen d'instaurer ça dans le débat,
cette idée,
on censure un deuxième Premier ministre, cette question-là va forcément se poser, alimenter le débat public.
Ce qui est certain, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'a qu'une ambition. C'est de ne pas gouverner
et
de placer 2027 comme étant le dossier essentiel.
Envisager une élection anticipée.
Alors 2027 ou l'élection anticipée. Et là où il est très fort, c'est qu'il sait rester au centre du jeu pour petit à petit faire de cette éventualité de la fin du règne d'Emmanuel Macron comme étant quelque chose d'incontournable. Et jusque-là, force est de constater qu'il y arrive.
Bon, vous n'avez pas de nom donc ce soir à nous donner, un nom qui résiste à toutes les motions de censure. Un nom ne fait pas tout, je suis d'accord.
Il y a un nom qui circule. Semblerait qu'il ait refusé, puisque le président l'aurait contacté, c'est Jean-Dominique Senard.
Pardon ?
Oui, Jean-Dominique Senard, le patron de Michelin, aurait été contacté par par l'Élysée, pour le sonder sur une éventuelle. Lui, il est consensuel, il est passe-partout, c'est un homme du social. Il a fait une politique sociale chez Michelin. Voilà. Moi, je veux juste faire remarquer une chose. Depuis 2017, aucun Premier ministre n'était connu de l'opinion.
Oui, c'est vrai.
Ça a toujours été une surprise et ce n'a jamais été le nom qui circulait dans les médias. Donc moi, je vous mets mon billet. Emmanuel Macron va nous sortir quelqu'un de son chapeau qui n'est pas connu de l'opinion publique et dont le nom n'a jamais été cité pour ce poste, pour Matignon.
Tel que c'est parti, ça ne sera pas avant la fin de la semaine, au plus tôt, voire début de semaine prochaine. Allez, 19h31 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, on est reparti, dernière partie des experts de Good Evening Business jusqu'à 20h avec nos experts. Ils sont là, Jackie Isabello, Marc Landré, Leonidas Kalogeropoulos. Alors, on a parlé un peu politique-politicienne, il fallait quand même. Ce qu'on appelle vulgairement la
popole. Ça, c'est fait.
Ça, c'est fait, effectivement. Non, on va dire un mot, évidemment, du discours de Patrick Martin. Donc, aujourd'hui, 14h, arrivé sur les Rolling Stones. C'était génial. Start me up. C'était Queen l'an dernier. Hein. Cette année, c'était Start Me Up. 40 minutes de discours. Du positif, Leonidas nous dira, nous le confirmera, il en faut, mais quand même de sérieuses mises en garde. Il a tapé très fort sur le programme du NPF, qu'il ne citait pas vraiment par le passé, il mettait des pincettes. Là, il a lâché les chiens quand même, Patrick Martin, aujourd'hui.
Mais je pense que c'était très attendu, et je pense que tous les entrepreneurs qui étaient réunis aujourd'hui attendaient que leur président, leur porte-parole, exprime très clairement le fait qu'il peut y avoir des débats. On a l'habitude de débattre avec des parlementaires de tous les bords, mais là nous avons un programme qui est un programme qui détruit la richesse du pays et qui détruit ce que tout l'édifice qui a été patiemment construit depuis 7 à 10 ans avec une politique tournée vers un environnement économique qui permette aux entreprises de créer, ça a été rappelé, 2 millions d'emplois en une dizaine d'années. Si on veut tout démolir, eh bien, il y a une recette, elle est très claire, c'est tout le programme du NPF, il faut l'appliquer. Et la démolition, elle sera rapide.
Il a eu les mots qu'il fallait pour vous aujourd'hui, Patrick Martin, Marc Landré.
c'est pas vraiment une surprise, je veux dire.
Non, c'est pas une surprise.
C'est pas une surprise. Et s'il y avait un endroit pour le dire, c'est bien ici. D'abord, oui. Parce qu'il y a toutes les caméras de France qui sont réunies autour de la REF au MEDEF. Donc, s'il y a un discours et un message à faire passer, c'est ici qu'il doit le faire. Deux, c'est la rentrée politique. Trois, c'est le moment où le président de la République poursuit ses consultations pour nommer un premier ministre. Quatre, il a fait une interview ce matin dans le Figaro, il était sur France Inter ce matin, où il a redit exactement la même chose. Donc, on est en écho, c'est... vous connaissez la communication, c'est la répétition. Donc, il répète ce qu'il a déjà dit, peut-être avec un petit peu plus de force, mais devant un public conquis, dont on sait pertinemment qu'il ne pourra qu'applaudir aux salves qu'il va envoyer contre la politique ou le programme du NFP, dont on sait... sérieusement qu'il n'aura pas le pouvoir et qu'il n'arrivera pas au pouvoir pour exercer la politique qu'il prétend exercer.
Avec un hommage appuyé à Bruno Le Maire
qui était là, je pense a été très touché par l'ovation.
On l'a vu effectivement, oui, mais alors on l'a trouvé assez ému parce que c'était sa 7e rêve.
C'est le minimum syndical.
Oui.
Il pouvait pas ne pas venir, il pouvait pas parler.
Il est venu tous les ans avec à chaque fois une petite carotte, une petite annonce forcément.
Mais rappelez-vous quand il a fait son discours post-Covid, il a été ovationné Bruno Le Maire, il était sur scène sur la plénière et les gradins se sont levés pour le remercier, pour l'applaudir de sa politique pro-Covid juste après la pandémie.
Il a eu une standing ovation effectivement ici à la REF.
Aujourd'hui, oui, Jackie, oui, sur les mots du patron du MEDEF, Patrick Martin aujourd'hui.
C'était d'autant plus important que Patrick Martin rappelle ces aspects, comme le disait Marc, qui sont d'une évidence affirmée, d'autant plus que nous avons appris des chiffres qui ne sont pas les chiffres les plus optimistes en matière économique, puisque ce matin l'association GSC associée avec Altares a présenté son baromètre semestriel des faillites d'entreprises et les faillites TPE notamment sont assez importantes. Donc derrière des emplois salariés qui disparaissent, il y a aussi une trentaine de milliers pour le semestre passé d'emplois d'entrepreneurs qui disparaissent et ces entrepreneurs
chômage des patrons,
qui créent la richesse.
Parlait,
donc, sentir un MEDEF puissant qui est capable d'affirmer déconstruire les fausses bonnes idées comme il l'a dit, c'est important parce que les entrepreneurs souffrent pas mal et l'incertitude économique est assez importante, que ce soit une incertitude au niveau international mais également au niveau du business au quotidien. Donc
Marc,
c'est vraiment son travail.
Moi, je trouve que les deux points forts de son discours ne sont pas forcément ceux qu'on attendait sur la politique du NFP. Un, c'est quand il a parlé de la réforme des retraites qu'il ne fallait absolument pas l'abroger avec ce chiffre hallucinant qui m'avait échappé, que 50% de la progression de la dette depuis 2017 est liée au déficit des retraites. Donc voilà, c'est ce qu'il a dit.
Oui, oui.
50% régime public compris.
Ah oui, régime public compris, il a dit.
Ça, c'est le premier point.
Parce que les conventions comptables des régimes publics sont compliquées à lire dans le rapport.
On ne peut pas se permettre d'abroger cette réforme des retraites parce qu'on sait qu'il va falloir remettre le couvert. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est très important, c'est la main tendue aux syndicats pour reprendre la négo sur l'emploi des seniors, enfin sur le travail, la nouvelle qualité de vie au travail, en disant on s'est planté, ok, très bien, maintenant on reprend, on trouvera un accord. Et donc, moi, je mets dans la main du futur exécutif le fait que nous sommes disposés à rediscuter avec les syndicats pour trouver un accord là où on a échoué.
Mais les syndicats sont-ils prêts, eux, à rediscuter, effectivement, avec
peut-être
le patronat,
pas tous, mais en tout cas, je pense que la CFDT, oui.
Léonidas. Il est intéressant de relever, c'est que dans un moment où, à l'évidence, il y a une crise sociale, et c'est bien la raison pour laquelle le nouveau parti, le nouveau Front Populaire est arrivé en tête.
Relativement,
mais c'est la crise de, non pas une crise de pouvoir d'achat, simplement, mais véritablement une crise de la valeur travail, parce que le travail ne paie plus suffisamment. Ce constat est fait de manière unanime. Et le fait de rappeler que les chiffres sont exorbitants, c'est 410 milliards les cotisations sociales dans notre pays. L'impôt le plus élevé en France, c'est la TVA. Il rapporte 185 milliards.
Alors,
on est devant un phénomène qui a pris des proportions extraordinairement importante, et le résultat, c'est que si vous prenez un salaire moyen de 3900 euros dans la poche d'un salarié, il coûte entre 8500 et 9000 euros à l'employeur. C'est-à-dire que si on veut trouver des marges de manœuvre pour augmenter nos salariés, il y a là une question centrale, c'est le fait que le coût de notre protection sociale repose de manière absolument dominante sur le travail.
Alors,
Ils privent le salarié de la capacité à avoir le fruit de leur travail, une rémunération suffisamment motivante, et c'est en train de déliter la valeur travail dans notre pays.
D'où cette petite phrase, et je voulais vous emmener là-dessus quelques minutes, concernant le SMIC à 1600 euros, la proposition du nouveau Front Populaire, avec cette petite ouverture ce matin du patron du MEDEF dans les colonnes du Figaro. Je ne sais pas s'il en a reparlé tout à l'heure, je ne sais plus.
Il en a parlé tout à l'heure.
Bon, 1600 euros à la charge des entreprises, non, mais... Si d'aventure on rouvre certains sujets comme le financement de la protection sociale, là, est-ce qu'il pourrait y avoir une ouverture?
Il a très bien dit il y a un problème de pouvoir d'achat en France que le NFP veut résoudre à travers l'augmentation du SMIC, qui serait une hérésie économique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat au niveau de ceux qui sont mal payés. Mais peut-être que la solution passe par effectivement une forme de TVA sociale ou de CSG sociale. On transfère une partie des cotisations sur une base étroite, comme disait Léonidas, vers une base fiscale plus importante, CSG ou TVA. Et en même temps, ça c'est le premier point, il dit que c'est très important, et mais en ça on n'écrase pas les salaires. Oui. Le deuxième point qu'il n'a pas dit dans son discours après-midi, mais qui est ce matin dans son interview du Figaro, c'est de revenir sur la prime d'activité, qui a des effets d'échelle ou des effets de seuil très importants. Ouais, et peut-être qu'en revoyant cette prime d'activité, on pourrait redonner du pouvoir d'achat.
Qu'est-ce qui s'est passé entre ce matin et cet après-midi? Alors, qu'il n'en fasse pas mention.
On ne peut pas tout dire, il y avait d'autres débats à avoir.
Voilà. Et puis, ce qui est important, c'est cette REF, elle est placée sous la thématique du pouvoir. Quand Patrick Martin demande aux partenaires sociaux de retrouver toutes leurs responsabilités, eh bien, c'est un appel à faire aussi de la politique. Et en tant que représentant des partenaires sociaux, de dire sur ce sujet qui est majeur, qui a été un point central de l'élection législative et qui fait partie des préconisations qu'attendent les Français, eh bien, qu'un acteur politique, même si c'est un acteur économique, dise « je suis prêt à discuter » et rien n'est fermé, eh bien, c'est une attitude tout à fait responsable. Après, il n'empêche pas que la proposition du NFP en tant que telle, elle est totalement unique. Mais en tant que représentant d'un pouvoir politique, le MEDEF, il se devait de dire « la porte est ouverte pour toutes les discussions ».
Et
comme le disait Léonidas, il y a des options derrière.
Et c'est très important de cette volonté. Il faut juste rappeler que entreprendre, c'est un acte de citoyenneté. Ça a une étymologie d'ailleurs, entreprendre. C'est prendre en main. C'est les citoyens qui prennent en main un sujet et créent une boîte, mais qui entraînent derrière eux tout l'esprit d'entreprise d'un pays. Vouloir être des citoyens responsables, rappeler que la nation, quand elle agit, elle est véritablement en possession de son destin. Et il y a des propositions qui sont faites. Mmh. Et les représentants de la nation, ils existent parce qu'il y a une nation qui est là. La subsidiarité, c'est qu'avant que les représentants de la nation s'expriment, il faut déjà que la nation dise un peu ce qu'elle a en toile de fond comme proposition. Et là, il y a des propositions qui ont été faites très concrètement sur cette question de pouvoir d'achat, qui est plus largement une question de la rémunération, de la valeur travail dans notre pays. Eh bien, la proposition qui est faite peut être un chemin de crête qui réunit la gauche, la droite, le centre pour avoir véritablement une réponse sur des salaires plus élevés. La TVA sociale est probablement aujourd'hui, alors qu'il y a une dizaine d'années elle avait été écartée, probablement aujourd'hui un point de consensus qui pourrait permettre à une synthèse politique de se créer.
La dernière fois qu'on a mis sur le tapis le thème de la TVA sociale, c'était quand?
2007.
C'était Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo qui a perdu son poste.
Est-ce que de mémoire, Sarkozy avait pas remis ça sous le tapis en février 2012, quelques mois avant l'élection de 2012?
Oui, mais il avait lancé une étude, concertation, mais qui n'a pas abouti parce que François Hollande n'en voulait pas.
Oui, c'est ça.
François Hollande, élu président en 2012.
C'est 2007 où elle a eu des conséquences politiques majeures.
Une centaine de députés en moins.
Ça avait effrayé les Français entre les deux tours de l'élection législative.
Mais justement, on n'a pas d'élection aujourd'hui, donc on est capable de bâtir.
Léonidas a raison, c'est une autre période et aujourd'hui la discussion est bloquée. Il faut pouvoir ouvrir tout un tas d'autres manières d'accorder de l'importance aux gens sur ce sujet-là. On sait qu'on va pas doubler les salaires, mais de montrer que le pouvoir politique sait créer de l'attention et offre des choses qui soient nouvelles, c'est le plus important.
Marc, le plus compliqué, c'est de convaincre une partie du monde syndical de ne plus penser en termes de cotisations sociales qui sont une rémunération différée pour passer à de la fiscalité alors que même si la base est plus large et qu'on rapporte plus, ça rapporte plus d'argent. C'est une, philosophiquement, je pense que la CGT et Force ouvrière ne sont pas encore prêtes
à faire cette bascule intellectuelle. La CFDT, oui, beaucoup plus. Et donc, si deal il y aura un deal entre la CFDT et le MEDEF qui fort probable sur une TVA ou une CSG sociale, en contrepartie de l'abandon de la CETU, dont le MEDEF ne veut pas, mais que veut la CFDT, c'est un point important dans la balance.
Je voudrais revenir sur un point, parce que vous avez raison de rappeler l'hypothèque syndicale. Lorsque l'on veut voir comment on en est arrivé à ces 410 milliards, ce qui est quand même une folie, hein, vous avez un seul endroit où c'est vraiment mis en avant comme étant un mérite français, c'est sur les syndicats, les sites des syndicats, qui expliquent que c'est du salaire socialisé. Et le salaire socialisé, c'est le fait qu'effectivement, c'est très bien, c'est du salaire, c'est parce qu'en contrepartie, il y a des prestations, il y a des droits. Mais la vérité, c'est que ces prestations et ces droits, c'est généralement une forme de gratuité. La gratuité des soins, la gratuité. Et cette gratuité, elle a fini par perdre la perception d'une valeur qu'il y a derrière.
Perte de saveur.
Et désormais, les salariés en ressentent principalement une frustration qui est de ne pas pouvoir construire leur vie décemment avec un salaire qui est rogné. Encore une fois, je redis, ce qui est versé par le dirigeant d'entreprise, il en reste 47% dans la poche du salarié. C'est quand même considérable, ce différentiel.
Vous avez le salarié, à la limite, je veux dire, c'est le contrat. Moi, je trouve que le chiffre qui est fondamental qu'a cité Patrick Martin dans son discours cet après-midi, qui était dans l'interview du Figaro ce matin, c'est les fameux 338 euros de charges, oui, de cotisation sociale.
Au niveau du SMIC,
on a oublié qu'il restait des cotisations sociales au niveau du SMIC. Alors, essentiellement patronal, bah,
ça a été tout le débat quand je veux augmenter mon salaire de 1000 euros, 200 euros au niveau du SMIC, rappelez-vous, c'est ça.
Dans l'esprit collectif, on pense qu'il n'y a plus de cotisations sociales au niveau du SMIC.
Mais ça, il n'y a pas de réponse aujourd'hui qui soit, en tout cas, formalisable du jour au lendemain. Parce que pour pouvoir répondre à cette question, eh bien, il faut se poser la question de la désindustrialisation, il faut se poser la question de la perte de l'innovation, il faut se poser la question de la perte de productivité de tout un tas de la classe travailleuse. Et ça ne se résout pas.
Et du pouvoir d'achat qu'on ne peut pas redistribuer faute de gains de productivité, c'était le discours de Patrick.
Le gain de productivité, c'est aussi un lien avec la rémunération.
C'est ça. Et le financement des retraites, et le financement tout un tas de choses.
Quand même, sur le SMIC à 1006, j'entends quand vous me dites que ça va être un travail de pédagogie auprès de certains syndicats, mais aussi de bien des patrons aussi. On était avec Paola Fabiani tout à l'heure, vice-président du MEDEF, patron de Wisecom. On est dans les centres d'appel, elle dit la concurrence. Nous, on est sur des bas salaires et la concurrence, on la connaît, la concurrence internationale, véritablement. Hein. Ça, c'est un vrai sujet quand même. Hein.
Mais, bon, non, mais simplement sur la concurrence internationale, il faut juste se rappeler également que si les consommateurs français préfèrent souvent acheter des produits qui sont importés, c'est parce que très souvent, ils n'ont pas à supporter la charge d'un modèle social comme le nôtre. Donc, on s'est créé quelque part notre différentiel négatif. Notre différentiel concurrentiel que nous subissons. Et là, il y a probablement, simplement ce chiffre, 100 millions de touristes tous les ans en France. Ah. Ils paieront, s'il y a 2% de TVA sociale en plus, ils contribueront à notre modèle
puisqu'ils vont venir en masse à Paris et en France pour les 5 prochaines années, les touristes du monde entier, maintenant que les JO sont arrivés.
Ayez tout de même à l'esprit qu'un pays comme la Grèce, dont le tourisme est la première source de revenus, a une TVA à 24%. Ça ne pénalise pas le tourisme d'avoir une TVA plus élevée. On a un niveau de TVA qui est relativement bas en Europe. La plupart des autres pays européens ont des TVA plus élevées.
Ouais, après, le modèle fiscal et social d'un pays, il doit être regardé dans son ensemble.
Ils n'ont pas les cotisations sociales.
Voilà, c'est ça. C'est vrai que la protection du travail n'est pas la même, le modèle social n'est pas le même.
Oui, en Europe, on a un modèle social.
On n'irait pas se faire soigner en Grèce, nonobstant le fait qu'on adore.
Mais il faut sortir du débat sur le SMIC à 1600 euros, et Patrick Martin l'a très bien dit. La question, la prime d'activité. Rappelons-nous quand Emmanuel Macron a dit au sortir de la crise des Gilets jaunes, on va augmenter le salaire net des SMICards de 100 euros. Il n'était pas question d'augmenter le SMIC.
Ah non,
et
l'administration
a inventé une prime d'activité augmentée de 100 euros sans que ça pèse sur le monde des entreprises. Donc c'est faisable. La solution, elle existe. Encore faut-il se poser la question et ne pas tomber dans les facilités d'augmenter le SMIC de 100 euros ou de 200 euros comme le propose le NFP. La solution, elle existe du moment qu'on se pose la question. Comme l'a dit Patrick Martin, je veux dire, et encore faut-il se poser la question pour pouvoir le faire.
Oui, enfin, cela dit, pardonnez-moi simplement sur la question du SMIC.
plus compliqué.
Non, mais il y a un élément qui est aussi important, c'est de ne pas être bloqué au SMIC.
Oui.
C'est de pouvoir rapidement atteindre des niveaux de salaire plus élevés. Or, aujourd'hui, le fait d'avoir défiscalisé uniquement les bas salaires, enfin désocialisé...
Jusqu'à 1,6.
Jusqu'à 1,6, oui. Mais il faut que l'on puisse retrouver des salaires plus élevés. Et pour cela, il faut effectivement pouvoir alléger les charges jusqu'à des salaires moyens. Et c'est là où une TVA sociale peut véritablement avoir un intérêt. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez passionnant.
Une TVA sociale ou un plan Marshall en termes de baisse de cotisations, voilà, enfin un Big Bang en termes d'allègement de charges.
Plan Marshall qui sera obligé de s'accompagner de la réduction de tout un tas d'autres sujets. Cette politique-là, elle ne peut être mise en place de manière très généreuse que si on règle notre problème de dette, comme l'a dit Patrick Martin
tout à l'heure. Et niveau de dépenses sociales.
On est surendetté, d'avoir des marges de manœuvre ne peut pas être fait avec un État qui va être demain incapable d'adresser des messages aux marchés financiers qui seront des messages raisonnables si tant est qu'on augmente le SMIC de manière déraisonnable. Ça, c'est quand même un point essentiel.
Oui, mais je pense qu'il faut également voir que dans cette histoire, il n'y a pas que des éléments comptables. Je pense que si on arrive à redonner la confiance dans le fait que le travail enrichit, que le travail est à nouveau la clé de voûte de notre modèle social, je pense que c'est un élément essentiel.
Ouais, c'est l'enjeu. Il y a du boulot, hein. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein.
Oui, mais c'est l'enjeu.
Le travail en France est assimilé à souffrance.
Oui, mais c'est l'enjeu. Attends. C'est l'enjeu essentiel.
Qui assimile ça à la souffrance?
Regardez la réforme des retraites de l'année dernière. Ouais. Quand on a demandé aux Français est-ce que vous voulez travailler 2 ans de plus, ils ont dit non. Ils préfèrent partir au même âge et gagner moins plutôt que de gagner autant en partant plus tard.
Oui, mais Marc-Landré, vous le savez comme moi, c'est aussi parce que le travail ne rémunère pas suffisamment. Regardez les jeunes aujourd'hui qui trouvent que malgré des études, ils peuvent avoir fait Bac plus 5, leur premier emploi leur donne absolument pas le sentiment qu'ils sont rentrés dans la vie, qu'ils peuvent fonder une famille.
Mais parce que, et Léonidas, ça... on a perdu le combat de la communication. Quand on regarde la manière dont les Français regardent le chantier de la redistribution.
Je suis en désaccord total avec vous.
La redistribution en France, elle marche formidablement bien.
Non.
Avant redistribution, il y a un écart entre les 10% en plus et moins de 1 à 18. Après redistribution, c'est de 1 à 3. Personne ne le sait. Comme dit Xavier Bertrand, boucher avalé n'a plus de saveur. Donc ça, c'est un point quand même qui est très important. Dans la rémunération globale, dans une entreprise, vous le savez, on ne fait plus des bilans avec les salariés uniquement sur les salaires. On fait des bilans sociaux globaux pour essayer de montrer quels sont les avantages qu'on a par ailleurs au-delà du salaire.
Je suis en désaccord total avec vous.
C'est vrai que les gens ne
le perçoivent pas.
Vous avez attendu deux minutes de la fin pour... Oui, très vite, 10 secondes.
Simplement, si on a des éléments supplémentaires au fait qu'on est capable de bâtir sa vie, de fonder une famille et de se projeter en l'avenir, tous les éléments supplémentaires viennent enrichir les bénéfices de la valeur travail. Bien. Vous ne compenserez pas la perte de la valeur travail avec tous les éléments que vous avancez. Ce sont autant, quelque part, de compensation d'une valeur travail qui a été véritablement rognée. Il faut la restaurer.
Allez, il faut s'arrêter là à 19h54. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir pour ouvrir cette belle saison qui s'annonce autant couleur. On en a pour des mois et c'est fabuleux.
Je peux dire un mot supplémentaire.
10 secondes.
Si on veut réindustrialiser la France, il faut entraîner tout le pays. Et on n'y arrivera pas si la valeur travail n'est pas restaurée.
La contribution de Léonidas Kalogiropoulos, il y en a tant d'autres. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Jackie Isabello, le cabinet Parlez-moi d'Impact, Marc-Landré, Sia Partners, Léonidas Kalogiropoulos, PDG de Médiation Argument, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Merci messieurs, à très vite pour de nouvelles aventures.
Merci à vous.
19h55, je vous donne vite les grands titres de l'actualité avant de se quitter. D'abord, cette université d'été du MEDEF qui a débuté aujourd'hui ici à Longchamp. Elle se poursuivra demain avec le discours du Patrick Martin qui a durement tapé sur le programme du NFP. Aujourd'hui, Emmanuel Macron qui a poursuivi ses consultations aujourd'hui, qui a reçu Jordan Bardella et Marine Le Pen qui lui ont fait savoir qu'il censurerait un probable gouvernement du nouveau Front Populaire. C'était à la mi-journée. Rentrée sociale qui s'annonce déjà chargée. La CGT envisage une mobilisation sociale fin septembre, début octobre. C'est ce qu'a déclaré Sophie Binet aujourd'hui, lundi. Une amende de 300 millions d'euros quasiment pour Uber aux Pays-Bas, siège européen de la plateforme, en cause des transferts de données personnelles des chauffeurs européens vers le siège aux États-Unis. Puis le patron de Telegram, toujours en garde à vue en France, Pavel Durov, arrêté samedi au Bourget, qui était sous le coup d'un mandat de recherche international. La justice lui reproche de ne pas agir contre des utilisateurs
l'utilisation controversée de sa messagerie. Pavel Durov n'a rien à cacher, a déclaré Telegram il y a quelques heures. 19h56, dans un instant, la météo est Tekkenko qui vous accompagne, le grand retour jusqu'à 20h, à partir de 20h bien sûr. Et on se retrouve demain 18h pour nouvelles aventures. Bonne soirée.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.